retrouver comme tous nos contenus, bien sûr, sur Internet.
Afrique Matin sur RFI.
5h42 ici à Paris, RFI Matin avec Nemo en piste dans un petit peu plus de 13 minutes. Mais avant cela, la suite de notre série de reportages dans le nord du Bénin, la zone du point triple confrontée à la menace terroriste. Notre invité ensuite, le ministre ivoirien de la Défense, Tene Biraïma Ouattara, à 48 heures de la restitution par l'armée française de la base du 43e Bima à Port-Boué. Il détaillera pour nous la nouvelle orientation de l'armée ivoirienne. La grand-messe du secteur minier sur le continent pour notre rendez-vous en économie. Le sommet Mining Indaba en Afrique du Sud et puis l'humeur de Maman, bien sûr. Mais d'abord, c'est les sports. Antoine Grenier nous a rejoint. Bonjour Antoine.
Bonjour Sébastien.
Et ça y est, c'est l'heure du dénouement. Les barrages retour de la Ligue des Champions débutent ce mardi avec 4 rencontres à l'affiche.
Une soirée qui débute dès 17h45 temps universel avec l'AC Milan en ballotage défavorable après sa défaite 1-0 du match aller et qui reçoit les Néerlandais du Feyenoord Rotterdam. Ademola Lookman et l'Atalanta Bergame aussi vont devoir rattraper leur retard à domicile face aux Belges du club Bruges, vainqueur à l'aller de 2-1. Mission encore plus délicate pour l'AS Monaco, battu 1-0 chez lui la semaine dernière et qui se déplace sur le terrain du Benfica Lisbonne. Le Bayern Munich, lui, devrait être un petit peu plus tranquille a priori avec son succès 2-1 du match aller et la réception du Celtic Glasgow à l'Allianz Arena à partir de 20h, temps universel.
Et chez les dames, Antoine, c'est l'heure des préparatifs avant le premier tour aller des qualifications pour la CAN 2026.
Qui démarre demain avec Soudan du Sud, Algérie et Niger-Gambie. Le Togo, lui, jouera vendredi contre Djibouti, des éperviers féminines favorites et sérieuses, comme a pu le constater notre correspondant à Lomé, Gerson Dovo.
Dans le ciel de Kégué à Lomé, le soleil décline lentement sur la pelouse, lancé pêle-mêle, la vingtaine de ballons ramenés pour la séance. Au milieu du terrain, 16 joueuses.
Ça joue la fille. Allez.
Au premier poteau dans la première moitié de la pelouse, les gardiennes de but en pleine activité. Exercice de maîtrise de la balle, concentration, anticipation. Tout autour de la pelouse, journaliste et photographe. De son côté, la préparatrice physique presse.
Jouez le ballon, la fille, jouez le ballon. Je ne vous sens pas. Allez. Ouais, comment ça va?
Au passage, quelques ratés, le temps monte.
Attends, debout.
Un peu en retrait, Kaito Meti observe, calepin, stylo en main, prend note et réorganise dans la foulée l'ensemble de ses polichés en équipe dans la seconde moitié du terrain. En conférence de presse, la coach revient largement sur le match Togo Djibouti, se montre confiante mais reste sur ses gardes.
On les a battus 13-0. Le contexte là est passé, c'est un match à prendre au sérieux. Djibouti a évolué énormément. Le niveau n'est plus le même. On doit prendre les deux matchs au sérieux pour les gagner. Il n'y a pas de comédie à jouer avec les joueurs.
Néanmoins, dans le nid des éperviers, le moral est au beau fixe et ça laisse à espérer dans tout un pays. Gerson de Volomé, RFI.
Enfin du basket, Antoine, et c'est l'heure des hommages avec la création par la NBA du prix Dikembe Mutombo.
Création annoncée lors du All-Star Game de ce week-end à San Francisco, un prix qui récompensera une personne ou une organisation qui œuvre pour la santé, l'éducation ou le développement économique sur le continent africain, comme avait su le faire Mutombo, décédé en septembre dernier à l'âge de 58 ans, rappelle Adam Silver, le président de la NBA.
Dikembe, nous l'appelions tous ambassadeur Mutombo avant qu'il laisse sur l'eau officielle, parce que ce n'était pas seulement en Afrique, partout dans le monde, il a été un ambassadeur du basket et il a déjà consacré une grande partie de sa vie aux actions humanitaires. Vous avez également mentionné les terrains de basket et comme vous le savez, Dikembe portait le numéro 55. Nous avons donc déjà, en collaboration avec nos partenaires en Afrique, construit de nombreux terrains, mais nous avions annoncé que nous allions en construire 55 de plus avec une marque spéciale directement associée à Dikembe Mutombo.
Adam Silver au micro de Théo Quintard.
Et c'était Antoine Grenier pour le journal des sports sur RFI.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
4h46 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale et cette rencontre attendue aujourd'hui à Riyad entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov, les chefs des diplomaties américaines et russes. Première rencontre américano-russe à ce niveau depuis l'invasion de l'Ukraine il y a 3 ans. Elle intervient en pleine effervescence diplomatique déclenchée par la conversation Trump-Poutine de la semaine dernière qui a brisé l'union des Occidentaux face à Moscou. Et d'ailleurs, réaction en urgence hier à Paris avec cette réunion des dirigeants européens qui ont tenté de parler d'une seule voix malgré leur division sur l'envoi de troupes de maintien de la paix. Une paix solide et durable en Ukraine doit s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles, a déclaré Emmanuel Macron sur X à l'issue de cette réunion, après laquelle il a dit s'être entretenu avec les présidents Trump et Zelensky. Et puis le pape François, 88 ans, qui est hospitalisé depuis vendredi à Rome pour une infection des voies respiratoires, mais il affiche un tableau clinique complexe selon le Vatican. Le Saint-Siège n'a pas communiqué sur la date à laquelle il pourrait quitter l'hôpital. Une position de l'armée béninoise attaquée samedi dans le parc du W, région dans le nord du Bénin, dans laquelle plus de 30 soldats ont déjà été tués le mois dernier dans la zone dite du point triple. À la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, attaque revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Une situation sécuritaire, une menace terroriste dans le nord du Bénin qui provoque parfois des déplacements de population. On poursuit ce matin notre série de reportages sur place. Deuxième volet avec notre envoyée spéciale Magali Lagrange. Elle est allée à la rencontre d'un groupe de personnes installées sur un terrain de la commune de Malanville, à la frontière avec le Niger.
Il y a quatre cases. Tu as vu ? C'est ici que le mari et la femme se couchent. Bon, c'est comme ça qu'ils se sont restés. Dans la saison des pluies, il faut qu'ils cherchent de l'herbage et ils couvrent les paillotes.
Deux petites cases munies de couchettes réparties sur un grand terrain au sol en terre. Quelques enfants pilent du mil. Amidou Amina, relais communautaire à Malanville, aide plusieurs dizaines de déplacés installés là depuis 2 ans environ.
Bon, ils se sont déplacés par Malanville parce qu'ils ont dit que Malanville, c'est une grande ville. C'est pas dans la brousse comme on embête les gens. Ils sont en train de chercher l'aide. Il y a les maladies, la faim qui les entoure. En causant avec eux, ils avaient demandé de au moins faire un forage pour avoir de l'eau potable.
Une vingtaine de personnes sont assises sur 2 tapis, étendues à l'ombre d'un arbre. Parmi les femmes, Rukiatou, 48 ans, qui a quitté un village de la commune voisine de Karimama avec sa famille, ses 5 enfants.
Ici, on a l'esprit tranquille. Au moins, on peut arriver à dormir. Là-bas, on entendait le bruit des armes. Les enfants avaient peur tout le temps. Alors qu'ici, maintenant, nous n'avons plus peur des armes. Mais c'est très difficile de ne pas pouvoir faire de l'élevage ni cultiver. Il faut tout acheter, la nourriture, même le bois pour cuisiner. Si tu n'as pas les moyens, c'est difficile de vivre dignement. Cette situation est très compliquée pour nous. Même si on a eu la vie sauve, on traverse des moments très difficiles.
Les déplacés évoquent la peur des terroristes et parfois leur crainte des arrestations auxquelles procèdent les militaires. Maison, champs, ils ont tout laissé derrière eux, comme l'explique cet homme âgé qui prêchait dans sa communauté.
C'est un peu difficile, beaucoup de gens ici sont sans emploi, mais certains essaient quand même d'avoir une activité de petit commerce. Il y a ceux qui remplissent des récipients d'eau, qui les vendent, il y en a d'autres qui vont couper de l'herbe et du bois dans la forêt pour les vendre.
Des activités de substitution en attendant de pouvoir rentrer quand la situation le permettra. Il y a un an, l'OIM recensait plus de 12 000 déplacés internes dans les départements de l'Alibori et de l'Atakora dans le nord du Bénin. Magali Lagrange, de retour de Malanville, RFI.
Notre série de reportages dans le nord du Bénin en 4 épisodes, les 2 premiers à retrouver d'ores et déjà sur Internet et les 2 autres à suivre à partir de demain sur notre antenne. En Côte d'Ivoire, la France s'apprête à restituer après-demain jeudi aux autorités ivoiriennes la base du 43e BIMA, le 43e bataillon d'infanterie de marine, situé à Port-Boué. Cette base deviendra le camp Thomas d'Aquin Ouattara, du nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Une cérémonie officielle sera organisée en présence des 2 ministres de la Défense après 2 ans de discussion. Et pour en parler, justement, ce matin, le ministre ivoirien de la Défense, Tene Biraïma Ouattara, est notre invité. Au micro de Binta Diagne, il détaille la nouvelle ligne de l'armée ivoirienne.
Nous sommes convenus d'avoir un nouveau partenariat. Nous proposons de consolider la coopération de nos forces conventionnelles, de renforcer l'appui de la partie française dans le partenariat avec la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le volet renseignement et puis le volet aussi des forces spéciales, et enfin de contribuer à la montée en puissance de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire.
Une 100aine de militaires français devraient rester pour assurer des formations. Quels sont les besoins spécifiques de l'armée ivoirienne ?
Nous allons créer un centre d'aguerrissement. Nous avons besoin, avant de projeter nos soldats dans les opérations des Nations Unies, donc de les former. Jusque-là, ces formations se faisaient dans des camps assez reculés. Nous pensons que le 43e BIMA, donc, correspond parfaitement à des infrastructures qui correspondent à la formation. Nous avons déjà créé, en partenariat avec la France, une école de communication au niveau donc des armées, ce qui est important. Et nous avons l'intention aussi d'y installer un certain nombre de bataillons ivoiriens dans le camp.
Quelle est la contrepartie à cette coopération ?
La coopération militaire continue avec la France. Nous, il n'y a pas de rupture en réalité, parce que une équipe de l'armée de l'air de la France va s'installer à Boaké, par exemple, où il y a des infrastructures appropriées pour la formation des pilotes ivoiriens. Donc la France a voulu réarticuler son dispositif en Afrique. On ne peut que donc aller dans ce sens, mais la coopération continue.
Entretien de Binta Diagne avec le ministre ivoirien de la Défense, Tene Biraïma Ouattara, à retrouver plus en longueur dans une cinquantaine de minutes sur RFI. Et d'ici là, 5h52 ici à Paris, notre rendez-vous avec l'économie africaine consacré au Mining Indaba, l'incontournable sommet sur les mines en Afrique. Il s'est tenu au début du mois dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, un secteur on ne peut plus important sur le continent. Selon les estimations, il recèle 30% des réserves mondiales de minerais critiques essentielles pour la transition énergétique. Parmi les grands habitués de ce salon, il y a les Américains, qui envoient habituellement une importante délégation. Et cette année, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche semble modifier les dynamiques. Les partenariats pourraient bien évoluer. Afrique Économie, signé Claire Bargelès.
La délégation américaine s'est réduite comme une peau de chagrin cette année, tant sur la scène du Mining Indaba que dans les allées du salon. Seul représentant à prendre la parole, Scott Woodard, le secrétaire adjoint par intérim spécialisé sur les questions de transformation énergétique auprès du département d'État. Il est resté très vague sur la politique minière à venir.
L'un des premiers décrets signés par le président dès son arrivée au pouvoir concerne l'extraction et la transformation de minerais, surtout aux États-Unis. Mais si on le lit de plus près, il y est aussi fait mention à de multiples reprises des partenariats internationaux et de la coopération avec d'autres nations.
La nouvelle administration ne s'est pas encore totalement installée et on attend toujours la nomination de l'équipe Afrique de Donald Trump, bien que son ancien envoyé spécial pour le Sahel et les Grands Lacs, Peter Pham, soit pressenti. Selon les experts, le corridor de Lobito devrait continuer à être développé. La modernisation de cette ligne ferroviaire pour faciliter le transport de minerais de la RDC et de la Zambie vers l'Angola afin de les exporter depuis la côte ouest du continent rentre dans la logique de concurrence avec la Chine. Mais un point d'interrogation flotte au-dessus d'autres partenariats, selon Vincent Rouget du cabinet Contrôle Risque.
Les compagnies continuent, mais après, elles ont souvent besoin de certains mécanismes d'aide de l'État américain pour finalement dérisquer certaines transactions qui pourraient être dans des pays compliqués ou des nouveaux marchés. On voyait souvent l'État américain intervenir soit par les biais de la diplomatie pour faciliter les échanges, les négociations, soit par le biais d'aides financières ou de garanties, de prêts. Et là, on a un point d'incertitude, voilà, sur est-ce que ça va continuer pour l'instant. C'est trop tôt pour le savoir.
Côté sud-africain, le ministre des Mines, Gwede Mantache, souhaite durcir le ton pour répondre au gel de l'aide américaine décidé par Donald Trump.
S'ils ne veulent plus nous donner d'argent, ne leur donnons pas de minerais. Nous avons des minerais sur ce continent, donc nous possédons quelque chose. Nous ne sommes pas de simples mendiants. Nous devons utiliser cette richesse à notre avantage en tant que continent. For our benefit
as a continent. Les doutes planent aussi au-dessus de la volonté des États-Unis de continuer à développer les chaînes de valeur ajoutée en Afrique, comme dans le cadre de l'accord signé avec la Zambie et la RDC pour fabriquer sur place des batteries électriques. Claire Bargelès, de retour du Cap, RFI.
Allez, avant de retrouver Nemo en piste pour RFI Matin, l'heure de retrouver Maman qui fait le tri ce matin. Parce que parmi les Gondouanais résidant à l'étranger, Maman, il y a selon vous les bons et les mauvais.
Oui, quand tu es un Gondouanais au Gondwana, mon ami, tu connais le modus vivendi. Tu sais comment marcher, parler, réfléchir, nager sans faire de vagues. Il n'y a pas meilleur que toi pour savoir comment voler sous les radars, comme un avion furtif, tout ça pour ne pas froisser président fondateur. Mais parfois, certains ont la chance de s'esquiver et se retrouver hors du Gondwana, devenant ainsi des grès Gondouanais résidant à l'étranger. La plupart de ces grès se contentent de se construire une nouvelle vie là-bas, oubliant Sergent Sans Fou l'amour des autres et sa section rangère des coups de chicotte, oubliant les élections surprises et les élections à demi-tour, effaçant de leur mémoire endolorie les hôpitaux sans médecins ni médicaments, les écoles sans enseignants ni classes, les journées et les nuits sans eau ni électricité, bref, une nouvelle vie, quoi. Quand viennent les vacances, si tu peux, mon ami, tu peux prendre un billet pour revenir au pays, voir la famille, manger les bons plats, aller au village, puis repartir sans faire de vagues. Tu sais que tu n'es qu'un invité dans le pays du président fondateur. Et quand tu es un invité chez quelqu'un, ben tu enlèves tes chaussures. Quand on te le dit, tu mets ton téléphone sur vibreur pour ne pas réveiller les enfants qui dorment. Comme ça, là, tu sais que tu circuleras sans problème au Gondwana. Tu circuleras comme un ballon de foot dans une équipe de Pep Guardiola. Mais certains, parmi les grés, ceux qu'on appelle les malgrés, c'est-à-dire les mauvais grés, les mauvais bougres, se piquent de vouloir continuer à enquiquiner notre leader bien-aimé depuis là-bas où ils sont.
Je ne comprends pas. S'ils veulent se battre, ils savent où me trouver, non?
C'est bien là le problème. Quand du côté des bons grés, bien élevés et polis, ça circule comme de l'eau sans le robinet, sans problème, eh ben, avec les mauvais gondouanais résidant à l'étranger, ça ne circule pas du tout. D'abord, parce qu'ils savent que lorsqu'ils prendront leur billet d'avion pour venir au pays, sergent, ça vaut la mort des autres, s'occupera personnellement de leur faciliter les formalités douane et police à l'aéroport. Ils passeront directement de l'avion à la prison de Gondwanamo. Et ensuite, mon ami, avant même de prendre ton billet d'avion pour revenir au Gondwana, il te faut un passeport. Et qui donne le passeport au Gondwana, d'après toi? Ben, c'est le gars que tu insultes, là, président fondateur. C'est son pays. Il est libre d'accepter qui il veut. Tu lui as mal parlé, ben, il refuse de renouveler ton passeport gondwanais, hein. Tu peux plus voyager, mon ami. Tu es devenu un apatride. Ah, un autre pays t'a donné un passeport? Ben, on va te refuser le visa pour entrer au Gondwana. Hein, tu vois, de gré ou de force, que tu sois un bon ou un mauvais gré, t'es obligé de reconnaître que le boss au Gondwana, mais c'est président fondateur. À demain.
À demain, Maman. Merci à Pauline Berthélémy et Thierry Le Saint qui ont réalisé cette session d'information. Pierre Pinto était à la rédaction en chef. Mais surtout, merci à vous pour votre fidélité. Un salut particulier d'ailleurs ce matin à Roger Camouguet et Ahmad Hassan qui nous écoutent tous les deux depuis N'Djamena, la capitale du Tchad. Ils nous ont écrit sur l'adresse africematin@rfi.fr. Excellente journée à eux et à vous également.
Appelez-nous, exprimez-vous, Chantal Leroux.
Au Togo, après les législatives d'avril, le parti présidentiel vient de remporter les premières sénatoriales de l'histoire du pays. Un succès qui ouvre la voie à l'élection de Fornia Simbé comme président du Conseil. Que vous inspire ce nouveau régime parlementaire?
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.